Avec l'arrivée de Final Cut Pro et de Logic sur la tablette d'Apple, les derniers bastions du Mac tombent, le montage vidéo et la production musicale. Dès lors, une question se pose, l'iPad va-t-il tuer le Mac? Que valent ces apps qui muent l'iPad en station virtuelle de montage vidéo de poche et en un véritable petit studio d'enregistrement de musique portable? Quelles sont les cibles? Débat! Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en nous abonnant à notre chaîne YouTube. Allez vous abonner et puis il y a plein de programmes désormais sur On refait le Mac. Il y a également On refait la pub présenté par Christophe Degrave, il va nous en parler ce soir, qui est dédié cette semaine à la console Vectrex, ma console préférée. Vous avez désormais également On refait la F1 si vous aimez la F1 et puis bien sûr On refait la tech qui revient très vite, vous allez voir notamment à l'occasion de Vivatech. Un salut particulier ce soir aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube, c'est un abonnement payant. Vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions en direct également, échanger avec nous au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au Village BSCA à Paris, assister à des enregistrements en coulisses et découvrir quels sont les chroniqueurs qui arrivent à l'heure et les autres qui arrivent en retard. N'oubliez pas également notre boutique avec les goodies. Il y a des jolies choses et notamment des casquettes, des t-shirts, aussi bien pour On refait le Mac que pour On refait la pop. Avec comme invité cette semaine, il nous fallait le témoignage d'un pro du son, Loïc Bénard, directeur artistique et fondateur de l'agence du studio d'enregistrement Pressplay, OnTap. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Alors, présente-nous un petit peu. Ça va bien? Oui. Alors,
tout va très bien.
Alors, c'est quoi ton métier concrètement? Explique-nous en mots simples pour les béotiens qui ne connaissent pas le monde de la musique et du son en particulier.
Mon métier, c'est de créer du son le plus souvent pour un support image. Ça va être un film publicitaire, ça va être un jeu vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi qui a un rapport avec l'image. Voilà, j'habille la plupart du temps des projets image.
Voilà, et ce qui est intéressant dans ton parcours, là on voit ton site internet et ton travail, c'est qu'avant de te spécialiser dans le son, tu étais auparavant un chef monteur, puis également un truquiste. Donc tu pourrais également porter un regard affûté sur Final Cut Pro, pas uniquement sur Logic, qui arrive également sur iPad Pro. Avec à mes côtés, ici en plateau, au village Païsia, les bourrifants, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent, bien qu'il est allé chez le coiffeur. Ça va Laurent?
Ça va bien. Bonjour à vous tous. Je suis très content d'être là.
Voilà, et toujours à l'heure, toujours en duplex.
Oh non, je suis toujours à l'heure, sauf
passionné
cette fois.
Inconditionnel des technologies et de la pop culture, Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe.
Il va pleuvoir.
Hello tout le monde, super content d'être là. Bien que j'ai vraiment peur en fait qu'on ait une coupure dans l'émission et que ça mette un terme à l'émission. Tu sais pourquoi Olivier?
Non.
Ce serait le Final Cut et ce que je te dis c'est logique évidemment.
Ouais, putain, comment c'est fort, hein? C'est très très fort. Ok, très bien. Tu nous parles
juste ajouter une chose, une petite chose en fait. Là, je kiffe trop. Je viens de connaître le nom de l'entreprise en fait de notre ami Loïc.
Oui.
Splayonte.
Et tu as compris d'où ça venait.
Et ça vient du Commodore 64. Et c'est
tout
trop
à fait
bien en fait. Ça, au moment où on mettait une cassette en fait pour le Commodore 64, à l'écran, on avait Pressplayonte parce qu'on devait appuyer sur Play, bien évidemment.
Absolument, donc, tu m'as démasqué, c'est pas souvent.
Voilà. Et le Commodore 64 qu'on devine derrière toi, mon cher Loïc, à tes côtés, sur cette mosaïque numérique, après Christophe, après Loïc, on redécouvre Monsieur Didier Poulicani. Bonjour Didier de Mac Forever, ça fait plaisir de te revoir.
Mais ça fait plaisir de vous revoir aussi. T'as vu, j'ai mis mon t-shirt en hommage à Christophe, justement. Voilà. Et puis, moi, je suis ravi que Loïc soit là. Il est plein d'humilité, mais c'est une pointure dans le secteur, donc c'est vraiment du bonheur de l'avoir ce soir.
Et merci à toi de nous avoir mis en relation avec lui. 13 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Apple pour porter son logiciel de montage vidéo, notamment à l'iPad. Du coup, on vous a posé une question très simple sur Twitter. C'était le sondage de la semaine. Envisagez-vous de switcher sur la tablette d'Apple au détriment de votre Mac ou PC? Vous étiez une très large majorité. 85,4% de répondre non contre oui, 14,6%. Vous renouvelez donc votre confiance au Mac, mais on va voir que l'iPad couplé à Final Cut ou Logic s'adresse sans aucun doute à une nouvelle cible. Nous en parlerons dans un instant, mais en attendant, pourquoi avoir attendu 13 ans, les amis? Quelles sont vos pistes? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? pour adapter des logiciels pro qui sont si importants dans l'écosystème Apple. Est-ce que vous en voyez des raisons? Qui veut prendre la parole? Qui veut se risquer à ce genre de réponse?
Je pense tout d'abord, tu vois, Olivier, que... il faut le matériel en fait qui puisse suivre le matériel embarqué. Tu vois, les processeurs embarqués qui étaient présents sur les tablettes de chez Apple étaient peut-être pas suffisants pour en tout cas un usage professionnel dans des logiciels comme ceux dont on parle, à savoir Final Cut et Logic, bien que Logic, je pense que ça pouvait tourner quand même malgré.
Ouais, Logic est un peu moins gourmand. En clair, il faut aujourd'hui, Didier, Loïc, une configuration pour Final Cut minimum d'un iPad Pro avec une puce M1, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et pour Logic, il faut une puce A12, je crois. Non, je suis pas
A12 Bionic, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, la première génération de l'iPad Pro sans bordure.
Fait parfaitement tourner.
Voilà, ce qui n'est pas le cas de.
Logic. Donc, Logic, c'est quelque chose qui aurait pu apparaître beaucoup plus tôt, effectivement.
Ouais.
Mais comme tu le disais, c'est une question de cible, en fait. La cible n'était pas parfaitement identifiée ou pas encore. Réceptive, donc maintenant tout est aligné et c'est maintenant que ça sort. Pour moi, la logique est plus là.
Sans jeu de mots.
Dans le calendrier de sortie.
Didier, Laurent, Plateau, votre avis? On a vu que les autres. On a vu LumaFusion pendant très longtemps sur iPad, on a vu DaVinci qui est arrivé avant Final Cut. Apple, ça a quand même fait tirer un petit peu les oreilles. Hein.
Ouais.
Mais surtout quand tu vois Resolve, il est sorti quasiment complet. C'est-à-dire que là, Apple, t'as l'impression qu'il travaille dessus depuis un an, quoi.
Mais ça fait 15 jours.
J'exagère un petit peu, ouais, mais en fait, on pourrait dire un manque de vision, tu vois, Tim Cook qui n'a pas priorisé ses projets, un manque de ressources qui est quand même un vrai problème chez Apple. Hein,
c'est dingue. Aspects,
parce que tu regardes tous les programmes, il y en a beaucoup qui n'évoluent pas, tu vois, Pages, Numbers et tout, ça évolue quasiment pas. Enfin, ils ont un vrai problème d'ingénierie. Il y a aussi le hardware, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, l'USB-C et le Thunderbolt, c'est quand même récent sur les tablettes. C'est vrai qu'on a besoin de ça, hein, d'interface. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, on va en parler sûrement après, mais c'est pas, enfin, pour un pro, d'avoir juste un port, c'est quand même pas terrible. Et moi, je trouve que c'est un beau symbole aussi du manque de vision un peu de Tim Cook qui se ressent là-dedans, quoi, parce qu'on te fait de la pub, ça va remplacer ton ordinateur, etc. etc. Et puis finalement, les logiciels qui sortent, les pros, bah, tu vois, c'est des logiciels tiers. Et c'est pas des... Même les deux logiciels phares d'Apple, ils ont mis 10 ans quasiment à arriver. Donc c'est juste incroyable de se dire, OK, je te le mets sur un segment pro, mais je ne sors aucune appli pro. Donc voilà, enfin, ça arrive. Bon, c'était peut-être le bon moment, mais en tout cas, on va en parler. Il y a quand même encore beaucoup de boulot, quoi.
Laurent,
je suis très 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 embêté. Pour moi, il n'y a aucune logique. Sans jeu de mots, hein, il n'y a aucune logique derrière.
C'est incompréhensible.
Non, mais c'était soit tu le sortais avant, au moment où tu as essayé de faire la plate de l'iPad, le nouvel ordi, hein, ils ont fait pas mal de pubs.
L'iPad
pas mal...
Pro est là depuis 3-4 ans.
Et tu le sortais à ce moment-là.
Sans bordure.
Soit, je ne sais pas, je te jure, tu as vu. Je t'ai glissé l'info, on en a parlé il y a déjà quelques semaines en disant ça perle, on sent qu'il y a quelque chose, ça bouge, et avant même que ce soit largement officiel. Et depuis, je suis très très embarrassé. Je me suis vraiment pris la tête en amont de cette émission parce que pour moi, il y a un manque de cohérence complet là-dessus. Alors bon, là on a parlé de la... du hardware qu'il fallait, tout ça, mais je pense pas, parce que le hardware, de toute façon, il existe. Je pense que ça tournait très bien sur une version précédente. On va voir, peut-être vouloir développer des usages. Dans le fil de l'émission, et je suis assez d'accord avec ton point de vue sur, je pense qu'ils cherchent une nouvelle cible et on va plus le...
On abordera plutôt, vous allez voir après, le busomètre, cette partie-là. Regardez cette réaction sur Twitter qui réagit, une personne qui réagit à notre sondage de Labric. Je ne pense pas que le Mac est supplanté par le PC, c'est freudien, par l'iPad. Je pense plutôt qu'Apple cherche toujours à compléter l'expérience utilisateur. Certaines tâches seront plus agréables en tactile et d'autres plus confortables sur Mac. Le but étant que chaque utilisateur puisse utiliser plusieurs produits pour un même projet. Retour donc sur l'arrivée de l'iPad Pro, sur l'iPad Pro de Logic et de Final Cut Pro 10. L'interface tactile est-elle un plus pour les pros qui vont switcher en masse sur la tablette d'Apple? Suspense. Alors les amis, pour ou contre l'interface tactile, un tour d'horizon de Final Cut Pro 10 et de Logic Pro qui sont donc désormais disponibles pour iPad Pro. Est-ce une réelle avancée majeure de disposer d'une interface tactile pour les pros, la vidéo et l'audio? On va peut-être commencer par Didier et ensuite Loïc, et on fait tourner la parole Christophe et Laurent. Didier peut-être.
En fait, bon, dans le montage, moi je vais parler pour Final Cut, j'ai pas testé Logic. Déjà, l'écran est petit. Si tu veux, tu rajoutes tes gros doigts et le fait qu'il faut des grosses interfaces, ça veut dire que tu peux pas gérer beaucoup de composants en même temps. Donc il y a plein de sous-menus, c'est-à-dire que tous les trucs d'effet, l'inspecteur, etc., ils ont en fait mis ça dans des sous-menus. Donc tu passes ton temps à aller dans les sous-menus, en gros. Si tu veux être un peu productif, il faut quand même utiliser le stylet qui n'est pas fourni avec, donc encore 150 balles. Le stylet qui remplace à peu près effectivement la souris. Ils ont rajouté quelques petites fonctions. Alors je sais pas si on le voit à l'écran là. Tu as une petite fonction, par exemple, c'est une espèce de roulette qui te permet de bouger dans la timeline.
Alors, on a une vidéo.
Tu arrives à la sortir, voilà, ouais, vous avez peut-être une vidéo. Mais donc, ça te permet de bouger comme ça avec juste le coin de l'écran, donc c'est assez pratique. Ils ont fait aussi des fonctions. Je ne vais pas arriver à vous les montrer, mais des fonctions de dessin. Donc, tu peux. Oh, bah, voilà, on les a à l'image. Donc, tu peux dessiner sur les vidéos. Je n'ai jamais vu un mec dessiner sur une vidéo. Bon, peut-être pour faire un petit croquis une fois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est bon, ils t'ont sorti ça parce que voilà, il fallait un intérêt pour le tactile. Mais sinon, c'est vrai que moi j'ai essayé de le brancher sur l'ordinateur avec la souris et le clavier, donc ça marche pas mal. On retrouve un peu plus ses petits, mais bon, mettre un iPad sur un clavier et une souris, est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt? Et en plus, il gère pas le multi-écran, donc finalement, même sur
pas trop vite.
Oui, non,
bien sûr, juste sur l'interface tactile.
Mais ils n'ont pas fait le pendant, si tu veux, que tu puisses utiliser avec une souris et un clavier qui serait peut-être plus optimisé pour ces outils-là.
Donc,
moi, je suis très, très mitigé. À la main, c'est très poussif sur la vidéo. Tu vois, de faire du tactile.
Ok. Loïc, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de la tactilisation de l'interface de... En restant sur Final Cut, ou voire de Logic, mais on reste plutôt sur Final Cut au début. Est-ce que tu as été convaincu? Moi, je trouve plutôt sympa cette idée de roue qui me rappelle le jog.
Le jog shuttle des bandes montage.
Des Betacam Sony. Hein.
Absolument. Non, ça, c'est plutôt sympa. Alors, contrairement à Didier, je n'ai pas eu l'occasion de tester Final Cut pour une question de modèle d'iPad. Et c'est là que, justement, ça me pose problème. C'est, comme vous disiez tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi il n'est pas sorti... ni avant ni sur d'autres modèles. Mais voilà, j'ai pas pu le tester. Ce que j'en vois de l'avantage du tactile, je vois pas plus d'avantage, en tout cas pour Final Cut, que ce qu'on peut avoir en tactile à partir d'un trackpad dans l'utilisation sur un Mac. Mais en même temps, je l'ai pas testé, donc j'ai du mal à me positionner là-dessus.
Ils ont quand même fait l'effort de conserver la même interface, donc on n'est pas dépaysé, on reste quand même dans le même environnement. Est-ce que tu as été bouleversé dans tes habitudes ou pas?
Non, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui connaît déjà pour Final Cut, en tout cas qui connaît déjà le programme sur macOS, peut assez rapidement retrouver ses petits, ses habitudes. Le seul truc, c'est que tu vois, dans Final Cut, ben, tu coupes, tu coupes, tu recoupes, tu recoupes. Enfin, c'est un peu la même chose quelque part pour Logic de temps en temps. Mais du coup, quand tu utilises juste ton doigt, c'est quand même... un peu dérangeant, en fait. C'est pas super fin, et effectivement, comme Didier le disait, ben, il vaut mieux avoir le pencil dans ce cas-là. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je pense en fait que ce sont des outils qui ont été pensés, tu vois, au niveau de l'interface tactile, pour être ce qu'on appelle on the go, quoi. Donc tu es en déplacement, tu veux vite faire un truc, tu veux vite monter quelques rushs pour voir un petit peu comment ça s'agence, mais tu vas pas faire tout ton montage et tes effets sur ta vidéo, etc., forcément sur l'iPad. Au niveau de la musique, c'est peut-être un peu différent malgré tout, mais on peut en parler par la suite.
Ouais, on va voir que Logic est un peu plus souple, mais c'est compliqué. On va voir que l'échange et la passerelle entre le Mac et l'iPad ne sont pas aussi évidents. Laurent,
je te racontais une anecdote qui m'était arrivée il y a quelques années, où je m'étais retrouvé dans un avion entre... Ophélie Winter et son mec de l'époque, et où ils s'étaient battus dans l'avion. Et en fait, je m'étais, j'avais joué sur une rangée à trois. J'étais au milieu, donc j'avais Ophélie Winter la gauche côté hublot et son mec qui s'était cassé le pied, donc qui lui était obligé d'être sur le couloir. Et elle avait.
Et donc, Laurent, tu as pu intervenir. Alors du coup, tu as
pu
t'exprimer.
En part de son corps, tu penses.
Ah oui, mais qui t'a donné la voix?
Au revoir. Bon, on s'en va. Hein
ouais. Donc, elle avait à l'époque, ça devait être un PowerBook, et elle enregistrait une petite maquette. Donc, imagine dans l'avion, le son est pourri, mais c'était, tu vois, elle avait une carte son déportée, elle avait un micro, elle avait un casque, et puis elle programmait des trucs. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Je me dis aujourd'hui, est-ce que finalement, l'usage que l'on veut de ces outils, c'est pas tu es en mobilité, parce que ça reste un appareil de mobilité, l'iPad. Tu es en mobilité et tu veux rapidement faire quelque chose. Quitte à ce que tu aies une souris externe. Tu vois, ou tu utilises le trackpad de leur clavier à un tiers du prix de l'iPad. Là.
Ah,
et donc, peut-être que c'est ça le truc. Donc, pas tant le travail de préparation, parce qu'il n'y a rien qui est fait dans l'outil du style on met ça dans le process, tu vois, tu commences, et puis quand tu arrives sur ton... Il n'y a rien qui a été vu comme ça, ni même l'utilisation d'iCloud. Hein. Ils auraient pu te dire, on te vend un super iCloud où tes vidéos sont mises à... Tu vois, tu arrives à... Mais il n'y a rien qui est fait là-dedans, donc ça reste des outils très autonomes, mais pour moi ça peut être du micro-montage. Ou alors, ils auraient pu prendre un autre axe, et c'est là où c'est de se dire, on va faire quelque chose pour un nouveau public, qui est des gens qui n'auraient pas, qui n'est pas un public de pro avec un ordi, et là du coup il manque plein de choses dedans, c'est-à-dire il aurait fallu tous les filtres TikTok, toutes les configurations,
la version basique,
ouais, toutes les préconfigurations pour que tu puisses rapidement faire, et il y a pas ça. Donc en fait ils ont pris le vieux Firefox que moi j'adore hein, par ailleurs, dans un, c'est bizarre.
Ouais, il est apparu quoi, en 2011 de mémoire, Final Cut Pro, voire en 2010, la version 10. Ils ont attendu quand même pas mal d'années. Alors, quid de l'interface de Logic cette fois, Loïc ? Est-ce que quelque part, c'est pas plus avec Logic que l'interface tactile offre un réel avantage par rapport au Mac, hein, si, voilà, on peut presque toucher les instruments du bout des doigts, c'est assez génial. Hein.
Oui, bah c'est pas mal hérité de ce que faisait déjà GarageBand, notamment sur ce qu'ils appellent les Play Surface, qui sont les façons de pouvoir jouer tes instruments.
Logic Remote aussi, que tu as beaucoup utilisé, je crois.
Alors, Logic Remote est super intéressant parce que là, pour le coup, c'est une télécommande tactile dans un environnement de mixage ou même pour lancer tout simplement un projet quand tu travailles en solo. Tu vas dans la cabine d'enregistrement, tu te lances, tu te repositionnes, tu te relances. Ce genre de choses est vachement utile. Ouais. Après, le tactile, ouais, tu as le jeu déjà sur Logic, ce qu'ils appellent les play surfaces, donc c'est soit sous forme d'un clavier, soit sous forme de cordes, de guitare, de choses comme ça sur lesquelles tu peux glisser pour créer des accords. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Le multitouch, bien sûr, quand tu veux faire des réglages d'effets, par exemple, et travailler sur deux paramètres en même temps, ça peut être super intéressant. Il y a des choses.
Il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à la version Mac de disposer du multitouch et du tactile en particulier sur l'iPad et sur Logic. Tu me dis en préparant cette émission que ça avait une vraie valeur ajoutée pour le beatmaking, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, notamment ?
Bah oui, pour les gens qui produisent seuls et qui font des arrangements basés sur des sons pré-créés où il y a très peu d'enregistrement audio. Ou alors de l'enregistrement audio simple, parce qu'il y a un petit outil aussi dans cette version de Logic qui est un sampler très simple à utiliser. Tu enregistres un son, il est directement mappé sur ton clavier, tu peux le jouer comme un instrument en quelques secondes, là où ça demande plus de temps avec des samplers plus traditionnels, où tu dois découper ton son selon les touches pour les remettre. Bref, là, tu as un vrai avantage pour ça, mais c'est vrai que c'est plutôt les gens qui travaillent un petit peu seuls ou les auteurs-compositeurs-interprètes aussi en déplacement qui vont avoir envie de créer une maquette, c'est un bloc-notes de luxe. Quoi. Ça peut être quelque chose vraiment de très utile. Ophélie Winter serait ravie avec un iPad et Logic.
Alors, on va voir si Christophe va nous trouver un jeu de mots pour Logic sur iPad. Je sais que toi, tu aimes bien t'amuser, composer, puisque c'est toi qui as fait la musique de Refait la Pop. Est-ce que ça t'a ouvert de nouveaux horizons, cette interface tactile sur l'iPad Pro et Logic ?
Non, en réalité, j'ai pas vraiment eu d'usage sur l'iPad pour les deux logiciels. J'utilise le Mac, donc parce que c'est super simple d'emploi, tu as ton grand écran.
Ouais.
Donc, je sais pas si je suis pas la bonne génération pour le faire, ou bien tout simplement, moi, je suis pas non plus je suis pas du tout un musicien pro. Donc,
justement.
Le truc, c'est que je suis pas en déplacement, tu vois, en train de me dire, ok, il faudrait faire ce beat, il faudrait enchaîner tel sample, etc., rapidement pour faire écouter un client. Moi, ça reste une passion personnelle. Donc, Du coup, j'en ai pas okay. aujourd'hui l'usage, non.
Et au-delà, Loïc, la fonction mixage également est un vrai plus avec l'écran tactile. On imagine les tables de mixage, les potentiomètres. Là, ça, c'est
oui, alors
on les touche,
c'est
on
vrai
les touche du doigt.
On n'a pas de contrôleur dédié. Là encore, tout dépend du contexte. C'est dans un cadre d'enregistrement de groupe live ou de sonorisation live où tu as besoin d'avoir l'œil sur beaucoup de choses en même temps, pouvoir accéder à beaucoup de paramètres imbriqués. Et régler des choses facilement, oui, c'est super intéressant. Après, de façon plus terre-à-terre, tout bêtement, le silence de la manipulation d'une tablette tactile, ça peut offrir des avantages dans certains cas où tu n'es pas forcément isolé des instrumentistes. Tu vois, de pas rouler ta chaise d'un rack à l'autre, appuyer sur des choses, tout ça. Dans certaines conditions d'enregistrement, de ne pas avoir de son de clavier, de clic de souris, ben, ouais, ça peut être super intéressant. C'est des petites choses comme ça qui sont des utilisations, certes, anecdotique, mais tu peux trouver des avantages au tactile dans ces conditions.
Et on verra tout à l'heure en fin d'émission que les cibles qu'on a essayé de définir pour ce type de produit à qui s'adressent ces applications pour iPad Pro, on s'aperçoit que c'est aussi générationnel, c'est des nouveaux usages qui émergent, on va en parler dans un instant. Les amis, la plupart des testeurs qui ont réalisé les démos réalisées par Apple ont été faits sur des iPads plutôt 13 pouces. L'iPad Pro se décline pour le Final Cut en 11 pouces, et puis pour la puce à 12 bionique, eh bien, il y a aussi des versions en 11 pouces. Est-ce que c'est tenable pour Final Cut, par exemple, Didier, sans écran externe?
Alors moi j'ai un iPad Air M1 là, c'est infernal, hein. Clairement, je te dis, tu passes ton temps dans des sous-menus. Et
mais
tout,
ça c'est un 11 ou un 13?
Non, ça c'est l'iPad Air.
Ah, c'est l'iPad Air.
Donc, t'as que c'est l'équivalent d'un. C'est le 10 pouces.
C'est le 10 pouces. J'ai pas compris que c'était le Air, excuse-moi.
Donc, voilà,
c'est le 10 pouces.
Exactement. Et ça, en fait, c'est pour ça que tant que t'as pas la grande tablette, déjà, c'est compliqué. Mais même 13 pouces, quand tu vois pour de l'audio, pour du montage, c'est minuscule 13 pouces. Donc, tu vois, t'as ton écran de contrôle, tes effets. Donc là, ils sont obligés de tout planquer dans les menus. Même la hauteur, tu vois, quand t'as, je sais pas, 3 cams ou 2, une piste son et puis des effets et tout, t'es obligé de scroller de haut en bas tellement c'est petit. Donc, c'est pas du tout agréable. Et comme je te le disais, en plus, quand tu le branches sur un écran, ouais. Ils n'ont pas tellement optimisé l'interface. Tout à l'heure, Laurent parlait d'Ophélie Winter, de la pauvre Ophélie, j'espère qu'elle nous regarde, et qui pouvait brancher ses interfaces et tout. Mais en fait, quand tu branches une souris là-dessus, tu n'as pas le pointeur qui devient tout fin.
Une grosse boule, c'est ça.
Tu ne profites pas finalement de la souris. Voilà, et tu n'as pas du tout la précision. Donc en plus, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que non seulement tu as un petit écran, mais en plus, tu es obligé d'avoir des gros boutons pour tes gros doigts. Oui, alors après, c'est générationnel complètement, parce qu'il y a des gens maintenant qui, tu sais, avec CapCut et tout, là, sur l'iPhone, il y en a qui font des montages de ouf, juste ouais. en 100% tactile. Donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément une barrière. Voilà, nous ce qu'on a, des fois, on se dit, tiens, c'est de la perte de temps, le Mac est plus efficace. Ouais, mais des générations qui n'ont jamais trop joué avec la souris, ils sont plus efficaces finalement avec leurs doigts. Ils peuvent aussi faire ça très, très, très rapidement. Après, ouais. la question, effectivement, non, mais il y a quand même une vraie question de positionnement, c'est-à-dire que quand ouais. tu veux utiliser ces produits, tu es obligé d'avoir un iPad, on va dire, au moins à 2000 balles, en gros. Plus des accessoires, il y en a encore pour 500 balles, plus tu dois payer ton abonnement. Donc la cible, c'est clairement pas l'étudiant. Enfin, sinon, il aurait sorti sur un iPad, l'iPad 10, tu vois.
Bien sûr.
Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que en fait, ça cible que les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont entre guillemets professionnels, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent dépenser pas mal de pognon pour que ce soit rentable. Et finalement, cette cible-là, elle a déjà le Mac. Et donc, ça va être très difficile de la convaincre, sauf avoir des arguments béton. Et là, on voit que on se tire pas mal pour essayer d'en trouver. Et c'est pas dessiné sur les écran ou de jouer à 2-3 potentiomètres qui peuvent vraiment faire la différence pour basculer vraiment sur un setup comme ça, à mon avis.
Oui, c'est intéressant ce que disait tout à l'heure Loïc sur le fait que d'utiliser Logic sur son iPad en studio, ça ne fait pas de bruit, c'est discret, c'est portable, ça a une bonne autonomie, etc. Donc ça a beaucoup, il n'y a pas de ventilateur comme sur un Mac, etc. etc. En revanche, Final Cut, c'est vrai que quand on revient à la maison ou au bureau et qu'on veut monter, les monteurs ont certaines habitudes, ce n'est pas le cas des nouvelles générations, mais des habitudes de brancher ne fût-ce qu'un écran externe pour avoir la prévalorisation du rendu sur un bel écran. Et là, de passer en mode 4 tiers, parce que l'écran de l'iPad est en 4 tiers, c'est juste une aberration, quoi. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a encore des trous dans la raquette, dans l'offre d'Apple, en tout cas sur Final Cut. Pour moi, c'est une aberration, et qu'ils n'ont pas fini le portage, quoi. C'est juste incompréhensible, ce que ne fait pas par exemple à DaVinci. Autre, tu disais qu'il faut ajouter des accessoires. Moi qui utilise Final Cut depuis de nombreuses années, on est productif avec Final Cut quand on a assimilé les raccourcis clavier. C'est-à-dire que voilà, on n'a même plus besoin de, j'exagère, de la souris. Là, en version tactile, il faut vraiment coller le clavier de l'iPad pour pouvoir les utiliser. Ils sont là, les raccourcis clavier, mais encore une fois, ça casse les habitudes des monteurs. Et encore une fois, on ne pense pas que ça soit taillé pour les monteurs historiques de Final Cut, Didier.
Ben ouais, après ça, je dirais que c'est... En fait, si tu prends une tablette, est-ce que c'est vraiment pour aller mettre tous tes accessoires dessus? C'est aussi pour avoir de la mobilité. Donc c'est sûr qu'il y a des raccourcis. Mais par exemple, il y a un truc que tu vois qu'on utilise assez souvent quand on monte, c'est le copier-coller les effets là, d'un clip sur l'autre. Là, il n'y a pas la fonction. Donc tu fais ton raccourci et tout, il ne marche pas, quoi. Moi, j'étais amusé de ça. Il y a plein de petits trucs qui ne marchent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas codé la fonction.
Ouais,
et
tu ne peux pas séparer l'image rumeurs... du son, la piste son, tu ne peux pas la...
Oui,
par exemple, mais pour en fait, nous, pour Refait le Mac, on a souvent des désynchros, tu sais, d'images et du son. C'est un vrai problème, on ne pourrait pas l'utiliser.
Oui, mais en fait, quand tu voyais les rumeurs, ils te disaient que ça va sortir l'année prochaine. Parce que, en fait, je pense que les mecs qui ont vu ça, ils se sont dit, bouh, ils ne vont pas le sortir, il manque tous les trucs. Et bien, en fait, c'est ça, ils l'ont sorti quand même. Et c'est drôle, parce que tu as vraiment l'impression, effectivement, qu'ils sont comme le Final Cut 1.0. Donc, ils n'ont pas fait de version, tu vois, on le crée en même temps sur l'iPad et sur le Mac, comme ils auraient pu le faire. C'est assez fou, quand même, de se dire que, et on va parler après, mais l'incompatibilité des projets, elle est liée à ça. C'est-à-dire que les mecs, ils ne sont pas ISO et ils vont mettre des années, parce qu'en plus, ils continuent à faire évoluer Final Cut, il faut quand même qu'en face ça envoie. Et quand tu vois qu'une entre guillemets petite boîte comme Blackmagic a réussi à faire une appli quasiment ISO entre le Mac et l'iPad en un temps record, parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait que depuis les M1, ouais, mais c'est complètement fou. Apple n'est pas réussi à faire ça, quoi. Je suis bluffé, quoi.
Alors voyons bon le côté des choses, les bons points, c'est que l'interface, on l'a dit, elle reste à peu près la même. Et moi j'ai trouvé, c'est étonnant, ça reste quand même un iPad, même si la puce est un M1 et un M2 pour les plus évolués. J'ai trouvé ça très très fluide, très dynamique. Il n'y a pas de ralentissement comme je pouvais avoir sur mon bon vieux MacBook Pro 13 pouces quand j'étais encore en puce Intel. Là, c'est loin d'être le cas. Moi, j'ai trouvé ça très fluide. Loïc, Christophe, vous confirmez ?
Oui, pardon Loïc, tu voulais peut-être t'exprimer ?
Non, c'est surtout cette histoire du clavier, ouais, le manque d'harmonisation, le fait que les applis ne soient pas ISO. Il y a un truc qui m'a vachement étonné sur Logic, pour revenir à Logic, c'est qu'effectivement, comme sur n'importe quel soft, on travaille énormément avec les raccourcis clavier. Et si tu connectes un clavier sans fil à ton iPad, il y a deux trucs qui sont complètement illogiques. C'est déjà le manque d'harmonie entre les raccourcis. Et je ne parle pas de raccourcis compliqués à quatre doigts, je parle de simples sélections qui ne fonctionnent pas. C'est complètement délirant. Et surtout, un truc qui est très étrange à mon sens, c'est tu as ton clavier, donc tu as ton iPad posé comme un écran devant toi. Le principe, c'est de pouvoir jouer des instruments avec une interface tactile. Le gros avantage de Logic, c'est que tu fais un commande K, j'ai failli dire pomme K pour te dire quel âge j'ai, et tu as un clavier qui est utilisable sur deux touches de ton clavier, de Q au U à droite du M et de Z à pied, je crois. Ça te fait un clavier MIDI, à moindre coût, qui n'est pas commutable sur la version iPad. Donc, c'est complètement illogique. Donc l'utilisation du clavier n'a pas du tout été prise en compte, que ce soit dans les raccourcis ou dans une utilisation simple comme celle du clavier MIDI virtuel.
Christophe, c'est ça, pour le coup, ben, c'est ce que dit Loïc, en fait, effectivement, il faut commencer à accessoiriser énormément l'iPad. Ben, tu parlais d'un clavier maître, éventuellement, Loïc, j'imagine, à pouvoir ajouter, donc d'ajouter, tu vois, les claviers qu'on utilise à côté d'un synthétiseur, etc., pour pouvoir réellement bénéficier d'une interface homme-machine, en fait, qui envahit la panne, ce qui est un petit peu dommage, en fait, parce qu'il y a quand même cet aspect mobilité à la base, et donc si on doit commencer à ajouter plein de trucs, c'est un peu dommage. Du côté de Final Cut, c'est là aussi il faudrait pouvoir accessoriser, mais c'est pas possible non plus. Didier en parlait, ajouter un écran, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment vraiment très embêtant, quoi.
Ouais,
ce qui me fait penser, on reviendra sans doute à un moment donné à la compatibilité en fait des projets, mais je maintiens en fait mon point de vue comme quoi ce sont des logiciels qui permettent de vraiment monter quelque chose ou créer quelque chose vraiment on the go très rapidement, et puis de passer ensuite sur le Mac.
Comme une version light, Laurent, de ton côté.
Non, moi, la grosse question que je me pose, c'est, Didier l'a un petit peu abordé tout à l'heure, tous les gens qui font du montage avec Final Cut, souvent, ils ont une kyrielle de plugins ajoutés
qu'ils achètent. Hein,
souvent ouais, payantes d'ailleurs. Et finalement, à ma connaissance, tu ne rajoutes pas ces plugins.
Il y a des plugins de base. Donc,
ouais, mais donc, du coup, tu te retrouves avec un outil qui, comme le disait tout à l'heure Didier, qui n'est pas du tout ISO, quoi. Tu vois, tu te retrouves. Alors,
et puis les effets sont un peu datés, donc.
Ouais. Alors, bien sûr, on a des commentaires intéressants. On a un commentaire de Slim83 sur le chat qui dit :« Ça reste une première version. Laissez le temps à Apple de peaufiner ses apps, même si ça fait longtemps qu'ils sont dessus. »
Ça fait 13 ans.
Mais c'est vrai, on est un peu dur, on est un peu peut-être un peu critique là.
Je veux dire, on attend 13 ans et on se retrouve avec la version quasiment identique que la première version de Final Cut il y a 13 ans. J'exagère. J'ai l'impression qu'Apple recommet la même erreur qu'il y a 13 ans lorsqu'ils ont sorti Final Cut Pro 10, qui était incompatible avec les utilisateurs de Final Cut Pro 7, les projets, et qui a quand même contrarié l'essor et l'envol de ce logiciel. Il a été un boulevard pour Adobe et Premiere en particulier, mais on en reviendra dans un instant. Tu disais tout à l'heure, Didier tout à l'heure, et puis c'est une autre habitude de monteur que tu as signalé à l'instant, Laurent, c'est que les monteurs et musiciens ont sûrement l'habitude de travailler sur des disques externes, des volumes externes, et l'affaire semble un peu se corser avec l'iPad, les amis. Hein.
Non, mais c'est un scandale. Disons-le, tapons du poing sur la table, les amis. Pas gérer les disques externes sous Final Cut, où moi, tu vois, le moindre projet vidéo, il fait 300 gigas. C'est-à-dire qu'il faut au moins un 512, voire 1 Tera, donc déjà vu le prix. Et en plus, il faut que tu copies les fichiers.
Il les gère, mais tu ne peux pas travailler dessus. C'est-à-dire il les voit, tu peux les importer, mais il faut les importer dans la mémoire de l'iPad.
Ça veut dire que tu es obligé de prendre un iPad.
Monstrueux,
quoi. Tu es obligé de prendre un iPad.
Ouais,
tu
vois, surtout avec... si tu as des projets en 4K.
Ouais, tu ne prends pas l'iPad de base, quoi. Tu vois,
64, 68 gigas, il faut oublier.
Tu oublies. Le problème, c'est que le prix s'enflamme.
Oui.
Je pense que beaucoup de gens pensaient arriver avec leur SSD externe, avec leurs 2-3 projets du Mac, juste le plugger sur iPad, pouvoir faire leur petite retouche en mobilité et le remettre sur le Mac. En fait, c'était ça le truc dont on voulait tous. Et Apple arrive en disant non, en fait, tu peux faire des trucs, mais uniquement sur l'iPad, tu peux l'exporter sur le Mac, et en plus, tu peux pas y retoucher après. Et iCloud et tout, j'en parle même pas, ça n'existe pas. Et c'est quand même un truc, tu te dis, mais quel va être l'usage de ça ? Enfin,
iMovie plus,
quoi.
Le montage des vidéos TikTok, je ne vois que ça.
On en parle depuis tout à l'heure en disant ok, c'est pour les TikTokers et tout. Regarde, ça, c'est l'effet qu'ils ont mis pour tu veux cliquer sur la vidéo YouTube, j'en sais rien, sur le nom de ta chaîne, etc. C'est une image fixe. C'est-à-dire qu'en fait, Apple, ils n'ont mis aucun effet moderne de TikTok, de tout ce que tu veux, là, tous les trucs rigolos. Il n'y a rien de vraiment intéressant. Tu sais, comme Clip et tout, c'était marrant, ces petites applis, tu t'es dit, tiens, ils avaient un petit savoir-faire autour de ça. Là, c'est même, ça ne cible pas ces gens-là, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, Justine et tout, elle veut faire son petit montage rigolo vite fait avec ses effets de peau, de machin. Et en fait, ça ne cible pas ça. Donc, ça cible quand même les gens un peu comme nous, quoi, qui ont envie de faire du montage pro, finalement. Et en fait, personne n'est satisfait dans l'histoire.
Laurent.
Mais pour moi, c'est encore une fois, c'est le fait que dans la chaîne de production, tu te retrouves avec un truc qui est pas souple. Ce qu'aurait dû t'apporter un tel outil, parce qu'il y a quand même des avantages. Hein, et tout à l'heure, c'était Loïc en a parlé de quelques-uns sur l'audio, mais j'en vois quelques-uns. Encore une fois, l'ultra mobilité, la possibilité de, tu pourrais pas en préparer. Tu vois, tu pourrais faire un truc où tu finis pas. Mais par contre, il faut que ça s'insère dans tout toute ta chaîne et tout ton workflow. Truc. Et c'est pas le cas, quoi. Tu vois, dès que tu rends complexe, et l'exemple du partage de fichiers qui doit d'abord passer du disque dur sur l'iPad pour être sur l'iPad, puis renvoyé, puis éventuellement réimporté, mais pas forcément, pas toujours modifiable en fonction de ce qui a été. C'est l'enfer.
Mais ce que disait Christophe à un instant était intéressant, Laurent. Il disait c'est une solution on the go. Mais encore faut-il pouvoir échanger entre le Mac et l'iPad. Et ce n'est pas aussi évident. Hein. Tu ne peux pas importer un projet Final Cut que tu as commencé sur le Mac vers l'iPad. Et pour moi, c'est juste une aberration industrielle. C'est une catastrophe industrielle annoncée hein, s'ils font ça.
Non, mais justement, c'est logique à partir du moment où tu fais ça on the go. En fait, tu commences d'abord sur l'iPad et puis tu passes au Mac.
Ouais,
donc ça confirme cette théorie.
Oui, bien sûr. On trouve une logique, mais la logique voudrait que tu puisses... Et puis si j'ai besoin de repartir le lendemain, je ne peux pas continuer à travailler on the go. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas là.
Non, parce que c'est certainement pour décharger, tu vois. L'objectif de Apple, c'est sans doute de décharger les rushs sur l'iPad, de faire quelques essais de montage et puis de continuer sur le Mac et d'y ajouter tous les
plugins. Comme un brouillon, quoi, en gros, c'est ça ?
Ouais. Ouais, un brouillon rapide, oui.
Ouais. Oui. Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait aussi parce que les fonctions ne sont pas ISO. Donc, en fait, c'est compliqué si tu fais des plugins, des effets et que tu reviens. Mais par contre, ils auraient pu le faire. Je crois que Resolve l'a fait un peu comme ça. C'est-à-dire que les fonctions qu'il n'a pas, il n'y touche pas. C'est-à-dire que tu peux lire le truc, mais il n'y touche pas. Tu ne peux pas les modifier. Et c'est dommage que ce n'est pas fait une version un peu dégradée comme ça.
Ce n'est pas si simple, en clair.
La décharge. Oui, mais du coup, le truc, c'est que ça peut mettre des années avant que tu puisses modifier un fichier Mac, le temps que tout arrive. Et en plus, si tu rajoutes les plugins, qui en audio, c'est pareil, les plugins, ils se mettent à jour et tout, donc il faut vraiment que ça suive derrière, quoi.
Alors, Loïc Quid de Logic, est-ce que c'est plus souple, l'univers dans Logic, entre les disques, entre les échanges entre le Mac et le PC, et le Mac et l'iPad ? Je vais y arriver.
Alors, j'ai testé brièvement les échanges de fichiers. Alors déjà, on travaille sur des fichiers beaucoup moins lourds qu'en vidéo, donc c'est tout de suite plus simple. Je n'ai pas tout testé, mais ce qui est sûr, c'est qu'importer des pistes audio, par exemple, depuis les fichiers, ça peut vite devenir compliqué. Par exemple, si tu fais un slide over sur ton fichier et tu ouvres Logic, tu ne peux que glisser, déposer une piste. Ah. Donc, piste à piste, quand tu travailles sur des 40, 50 pistes, c'est impossible d'importer ton projet. Dans l'autre sens, en revanche, ce que j'ai trouvé assez sympa, notamment pour l'utilisation du sampler d'Alchemy, qui est super bien foutu sur l'iPad et avec lequel tu as envie de t'amuser, c'est que faire un export audio piste à piste, ça te génère un zip qui est tout de suite, tu peux le balancer par AirDrop et tu as tout dedans. De ce côté-là, c'est assez fluide.
Donc il n'y a pas la même limitation, on peut échanger dans tous les sens, le Mac d'un côté, l'iPad de l'autre, ça c'est l'ouverture est totale.
J'ai trouvé ça très souple, mais après les limitations, elles sont, comme disait Didier, sur l'utilisation de plugins tiers ou de choses comme ça.
Bien sûr.
Tout ce qui n'est pas disponible sur l'App Store, tu peux l'oublier. Soit tu fiches tes pistes et tu réimportes des pistes figées que tu ne pourras pas bouger dans ton projet Logic, soit tu te cantonnes aux effets déjà présents qui sont nombreux et très très bien faits. Mais l'interopérabilité, c'est encore quelque chose qui est limite.
Et ce que je trouve intéressant,
qu'on peut dire que c'est une piste d'amélioration pour Apple.
Oui, de mieux en mieux. et je trouvais intéressant, moi, en termes de fonctionnalité d'import, c'est que ça va même jusqu'à de permettre d'importer dans Logic des projets GarageBand. Ça montre bien que ça donne une piste sur le type de cible que l'on adresse pour ce type de projet. Mais n'allons pas trop vite. Alors, tu me disais en préparant cette émission, et tous en préparant cette émission, vous êtes le problème de l'iPad, que ce soit Final Cut et surtout Logic, c'est limité par le nombre de ports de l'iPad. Hein. Et tout simplement, déjà, si on veut brancher un casque, c'est compliqué. Et c'est important un casque pour un musicien.
C'est le minimum pour travailler sur Logic, et c'est là que c'est complètement incohérent, c'est que tu ne pourras pas de toute façon travailler de l'audio avec du sans fil, la latence est trop importante, et tu n'as pas de prise casque, tu as un seul port, donc même si tu as de quoi connecter ton casque sur le port unique, c'est terminé. Après, voilà, tu prends un hub, tu ajoutes les interfaces qu'il faut, tu perds en mobilité, mais tu restes, je pense que tu as quand même en tout cas pour Logic, par rapport à Final Cut, tu as quand même possibilité d'aller chercher des machines moins perfectionnées, plus anciennes, à des tarifs plutôt intéressants. Un hub qui fasse audio en même temps et qui te permette de brancher un contrôleur. Et tout ça. Tu as quand même une solution avec tout de suite une interface audio, un contrôleur MIDI qui reste à moins de 1000 euros. Donc, pourquoi pas ? Là, la cible est plus évidente que sur un Final Cut.
Donc, en plus de l'iPad, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, un casque filaire, parce qu'un casque Bluetooth, c'est de la latence, donc pour toi, c'est pas envisageable. Donc, il faut une interface USB-C dans laquelle on puisse brancher une carte au son, une interface ou un clavier MIDI.
Ce que tu vas pas avoir sur ton iPad, c'est une interface audio complète avec des entrées qui te permettent de rentrer tes instruments, des sorties qui te permettent de monitorer ce que tu fais et une sortie casque si tu veux t'enregistrer sans avoir le retour. Ou si vous êtes plusieurs, tu n'as pas d'interface casque, donc ça t'oblige à ajouter une interface audio, même simple, qui va te coûter une centaine d'euros. Tu n'as pas d'interface MIDI, c'est contrebalancé par les instruments tactiles, certes, ça peut être un plus. Tu n'as pas de contrôleur physique non plus, mais là tu rentres dans des choses un petit peu plus complexes que tu peux gérer en multitouch. Mais ça t'oblige de toute façon à avoir quelque chose d'autre en plus de l'iPad. Tu ne peux pas travailler uniquement avec l'iPad, sauf à utiliser le micro de l'iPad pour enregistrer et te sampler, et utiliser les haut-parleurs de l'iPad pour écouter ce que tu fais. Mmh. Et donc, par exemple, une ligne de chant, tu ne peux pas l'écouter et en même temps la chanter en utilisant le micro. C'est incompatible. Le son de l'iPad va être pris par le micro. C'est obligatoire, l'interface audio. Tu ne peux pas travailler sans.
Alors, on va voir si les accessoires vont peut-être s'y mettre, proposer des solutions. Ouais.
Je pense qu'on va avoir des surprises de ce côté-là. À mon avis, il va y avoir du tout-en-un qui va sortir très vite.
Ça va être sympa. Enfin, j'espère. Laurent, pour conclure.
Non, moi aussi, je pense qu'on va voir des dongles externes sortir avec toutes les options pour avoir les casques, les entrées micro. Il n'y a que ça. Hein.
Ouais, ou des systèmes de dock intégrés et mobiles. On a de voir ça. Regardez cette réaction sur Twitter d'Alan, alias Alan Tranouez. Il me manque deux éléments pour passer définitivement sur l'iPad, donc c'est plutôt quelqu'un qui vient de la musique. Il me manque Guitar Pro, qui ne permet pas d'éditer les partitions sur iPad, et le fait de pouvoir avoir le contenu iCloud intégralement disponible en connexion. Il y a encore du travail de ce côté-là, Loïc. Hein.
Oui, c'est certain. Certains, après, ils parlent de choses très spécifiques qui sont dédiées à un instrument donné qui est la guitare. C'est, pour moi, on n'est pas sur la cible première, encore une fois. C'est soit un bloc-notes de luxe, comme je le disais au début, soit pour des producteurs qui sont plus dans des styles musicaux beatmaking, comme on disait tout à l'heure. Et ça... Oui, ça crée un petit goulot d'étranglement vers un style plus que les autres.
Bilan, vous l'aurez compris, un bilan plutôt mitigé donc pour Final Cut Pro X, Final Cut Pro 10 notamment, surtout, que l'usage de ces apps est lié à la souscription d'un abonnement. On va en parler de cette histoire d'abonnement après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever, sur le site Mac Forever et la planète Apple. Et comme chaque semaine ou presque, c'est Didier Polycani qui s'y colle.
Et oui, Olivier. Et alors, cette semaine, tiens, on commence avec une rumeur qui pourrait vous intéresser, vous qui voyagez beaucoup. Apple est en train, d'essayer de mettre un petit peu plus d'AirPlay dans les hôtels. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôtel récemment, mais il y a souvent les petits dongles Google, tu sais, les Chromecast, pour que tu puisses streamer le contenu de ton Android sur l'écran de ta télé de l'hôtel, par exemple, pour regarder ton Netflix, tu vois, des choses comme ça. Enfin, Netflix, c'est le mauvais exemple, mais de la vidéo. Et effectivement, AirPlay, il faut une Apple TV ou alors il faut une télé compatible. Enfin, souvent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce serait peut-être une nouveauté d'iOS 17. Il y en a qui disent qu'Apple pourrait baisser un petit peu les prérequis pour mettre AirPlay plus facilement dans les hôtels. En tout cas, c'est une piste peut-être dévoilée à la WWDC.
AirPlay, qui lui aussi existe depuis de nombreuses années, était très novateur par rapport à ce que proposait la concurrence et qui a très, très, très peu évolué au fil des années. Seconde info, rumeur.
Ça, c'est rigolo. Alors, tu sais, chaque année, il faut qu'ils trouvent des petites nouveautés dans iOS 17 que voilà, tout le monde va dire c'est incroyable, puis on ne va jamais les utiliser. Il y en a un qui c'est un journal intime. Alors bon, peut-être ça peut être populaire chez les jeunes d'avoir un journal intime sur l'iPhone. Il y a déjà plein d'applications. C'est marrant qu'ils se lancent là-dedans. Surtout que bon, Apple, tu sais qu'ils lancent des trucs comme ça, puis des fois, ça évolue pas beaucoup. Mais voilà, on en est là aujourd'hui dans les nouveautés d'iOS 17. Tu vois, un journal intime.
Et puis WWDC, les planètes semblent s'aligner pour le casque ARVR que la rumeur nous promet.
Oui, surtout si toi, comme moi, comme on a été invité à San Francisco, on a reçu le petit carton d'invitation et il ressemble un peu à un casque quand même. Alors, la troisième rumeur, donc, elle vient des chaînes de production. Et alors, à l'origine, on avait dit Apple va en produire des millions la première année et tout ça. Puis finalement, à 3000 balles, je ne sais pas si beaucoup de gens vont l'acheter. Et là, le chiffre qui sort, ce serait qu'Apple aurait provisionné à peu près 100 000 casques pour cette année. Donc, ce qui reste pas mal, mais voilà, ça ne va pas être un gros succès commercial à 100 000. Mais voilà, à ce prix-là, sur un marché de niche, peut-être surtout destiné aux développeurs ou early adopteurs, ça peut être pas si mal quand même. Je crois que le je ne veux pas dire de bêtises, mais le PSVR 2, c'est quelques centaines de milliers écoulés, je crois.
Oui, mais après, si ça ne fait pas la même chose et que ça donne envie de l'acheter et que ça ne s'adresse pas uniquement aux gamers, il y aura peut-être quelque chose à faire. Ce que je trouve intéressant dans le torrent de rumeurs qui se sont abattues depuis des mois autour de cette lunette de réalité augmentée mixte, c'est que c'est très précis les rumeurs et ça va même, et c'est très rare, jusqu'au prix final, prix public. Et de mémoire, il y a...
Ça, c'est constant surtout.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, Laurent, c'est que la dernière fois qu'Apple a...
L'iPad.
Voilà, qu'Apple a sorti un produit et que on a parlé d'une rumeur autour de prix, c'était l'iPad. Des rumeurs qui étaient un petit peu instrumentalisées pour qu'on parle de l'arrivée de ces tablettes, parce que tout le monde disait à l'époque qu'il ne faut pas sur les tablettes, il n'y a pas de marché. Exactement comme maintenant avec les lunettes. Hein, parce que tout le monde s'était cassé la gueule avec les tablettes PC de Microsoft, souvenez-vous. Et Apple avait laissé fuiter un prix à 1000 euros. Et Steve Jobs est arrivé sur scène, il a lancé un prix à 500 dollars. Donc rendez-vous le 5 juin sur onrefaitlemac.com, sur YouTube, pour suivre en direct la conférence avec nous. Et je mets mon doigt à couper ou ma main au feu que le prix sera divisé par deux. Voilà.
Oui. Moi, l'info que je vous ai partagée là dans le groupe des chroniqueurs, je la trouve intéressante. Hein.
Oui, mais développe. Ils n'ont pas les internautes dans le groupe de chroniqueurs.
Non, mais je vais le faire. C'est justement le fait d'avoir un bureau, un immense bureau, quoi. C'est-à-dire que tu aurais, au lieu d'avoir un seul écran, ouais. de finalement, dans les lunettes, tu te retrouves avec un très, très grand écran.
Comme dans
et ça devient un
opérateur de bourse.
Ouais, mais ça devient surtout un super outil de travail.
Parce comme la régie d'en refait le Mac.
Ce qui justifierait pourquoi Apple ne sort pas de grande dalle. Par exemple.
Non, c'est de vrais nouveaux usages qui soient développés, mais on va voir. Mais on n'a pas d'infos particulières, très honnêtement. Mais c'est juste de ce qu'on a vécu par le passé qui nous amène à avoir cette réflexion-là. Nouvelle info ou rumeur, Didier ?
Oui, alors ça, c'est une petite info un peu. Voilà, ça intéressera qui voudra, mais Apple a signé un deal de plusieurs milliards avec Broadcom donc pour faire des puces autour, enfin c'est pas forcément la puce 5G, mais disons des éléments autour de la 5G avec Broadcom, donc pour les iPhones, et surtout ce sera fait aux États-Unis. Donc on voit que Tim Cook est quand même dans une stratégie d'essayer de rapatrier au maximum ces technologies, puisqu'on l'a vu, hein, la dépendance à la Chine ou à TSMC devient vraiment problématique pour leur business model. Donc petit à petit on voit que rapatrier, tu vois, tout le monde a critiqué Trump, etc., mais c'est vrai que c'est un petit peu l'idée en ce moment d'essayer d'être moins en moins dépendant de l'Asie.
Bon, et on parle de l'iPhone 16 à nouveau ?
Écoute, l'iPhone 15, on a dit, le 14 n'est pas terrible. Toutes les nouveautés sont dans le 15. Maintenant, on dit, bon, le 15, en fait, ils vont mettre de l'USB-C, puis voilà, ce ne sera pas forcément incroyable, sauf peut-être le Pro. Et là, maintenant, on te dit, ah non, mais la vraie nouveauté, c'est sur l'iPhone 16, iPhone 16 Pro. Alors là, tu auras des nouveaux écrans, de la bordure toute fine, enfin, voilà. Donc là, effectivement, on pourra avoir des nouvelles tailles d'écran, enfin. Et moi, vous savez que je râle un peu souvent que les iPhones ont l'air petits par rapport aux Android, et surtout avec les grosses bordures. Donc je me réjouis, moi, d'avoir encore des écrans plus grands, même s'il faudra toujours des poches plus grandes.
Merci beaucoup, Didier. Une réaction sur le chat de YouTube dans Refait le Mac.
Ouais, on a pas mal de commentaires et c'est intéressant parce que ça fait écho justement au busomètre. C'est-à-dire qu'on a Mathieu2475 qui nous dit effectivement, travaillant dans un palace à Paris, le AirPlay est disponible et presque obligatoire pour le client, mais ça a mis du temps à être déployé. Puis les Naïcs complètent en disant les TV Hospitality mettent du temps à intégrer AirPlay. De plus, la durée de vie des TV dans les hôtels est assez longue, proposant des barres de son dans les hôtels. On a encore, tu vois, du public en...
Il y a quelque chose me dit que
de monde en IA.
Que monsieur Lénaïque travaille pour un fabricant bien connu d'audio français, s'il vous plaît. Retour sur l'arrivée de Final Cut Pro 10 et de Logic sur iPad Pro. Gros plan sur un point qui a soulevé pas mal de critiques. Il n'est pas possible d'acheter l'app, contrairement au Mac. Il faut souscrire un abonnement. Alors les amis, question simple, pour ou contre un abonnement, hein, que ce soit Final Cut ou Logic, il n'est pas possible d'acheter l'app sur l'iPad, contrairement à la version Mac, hein, historique, facturée 349 euros. L'abonnement sur iPad se monte à 4,99 euros par mois pour Final Cut ou Logic, ou 49 euros par an. Votre sentiment, on commence par Laurent.
Écoute, je pense que c'est... Apple a, historiquement, hein, Apple a toujours été assez cool sur ce genre de logiciel. C'est-à-dire que moi, ma licence Final Cut, qui coûte cher, hein, elle est à 300, 360 euros.
Ouais, comparé à Adobe, c'est pas cher.
Non, mais je l'ai payé qu'une fois.
Ouais.
Tu vois, au moment où tu payes la première fois, tu es...
Depuis 2011, quoi.
Ouais, et tu la payes qu'une fois.
Elle est largement amortie depuis.
Et c'est pareil. Là, ils sont en train de basculer. Il faut quand même se rappeler que le fait d'armes, quand Tim Cook partira, on se souviendra, il n'y a pas eu de produit révolutionnaire. Hein, bah,
attends,
peut-être
la semaine prochaine, 15
ouais,
jours.
Mais il n'y aura pas eu de vrai, à part la montre, hein, tu vois ce que je veux dire.
C'est bien la montre.
Oui, mais c'est un succès phénoménal. Mais ce que je veux dire,
c'est pas financier, c'est industriel.
Non, ce qu'il aura fait, c'est qu'il aura transformé les services. Exactement. Il aura transformé Apple vers une boîte qui fait les services. Et je ne suis pas étonné qu'on aille vers des abonnements pour ce genre de produit. Maintenant, il faut le ramener sur la durée de vie. si tu pars du principe que c'est un produit qui devrait valoir l'équivalent de ce que ça valait sur l'ordi, je pense que ça vaut un peu moins parce que c'est moins pratique, mais on va dire que ça vaut 300 euros pour 49 euros par an, ça veut dire que tu as à peu près 6 années. Donc, c'est pas totalement stupide, tu vois, je veux dire, ça reste un prix quand même, somme toute, relativement correct. Après, je rappelle que la moindre appli Adobe, c'est 25 euros pièce, quoi, par mois. Donc là, on est à 4, tu vois, on est à 4,99. Après, je pense que les gens n'aiment pas les abonnements. Je pense qu'on est dans une, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, dans une trajectoire d'abonnement.
C'est très européen.
On va arriver vers un rejet de l'abonnement, et puis ça va être des cycles. Pour l'instant, on est à fond dans l'abonnement, et donc c'est la direction que vont prendre presque tous les logiciels.
Lily, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse fine de notre ami Laurent ?
Mais toujours, moi, tu sais bien. Après,
sauf que...
moi, non mais disons que comme c'est une version alpha 0.1. Moi, ça me paraît un peu malvenu de la faire payante. Après, le problème, c'est que si tu la mets gratuite, et qu'elle peut pas redevenir payante d'un coup, tu vois. Ça... Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils l'ont pas mis en bêta et en disant elle est gratuite, mais quand elle sera mature, quand tu pourras vraiment réimporter tes projets du Mac, là, on te la fera payer. Et effectivement, elle est pas très chère, parce que même pour un étudiant, tu te dis tiens, 50 euros par an, je fais du montage un peu pro machin, je suis en école de montage et tout ça. C'est beaucoup moins cher qu'Adobe. Enfin, il pourrait avoir peut-être des prix avec les écoles, je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi, ça ne me choque pas tant que ça à ce prix-là pour une application complète à usage pro ou semi-pro. Dans l'état actuel, par contre, ça me choque de la faire payer parce que je trouve qu'elle ne vaut pas son prix. Et surtout, pour les pros où ce serait du dépannage, l'idée donc, c'est de dire « Ah tiens, je suis dans l'avion, bah, tiens, je ferais bien un petit bout de montage sur… Ah, mais je n'ai pas pris l'abonnement. » Enfin, tu vois, et tu ne vas pas prendre un abonnement pour un truc que tu vas te servir trois fois par an. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal à voir le positionnement de ça, en fait.
Tu peux l'activer, désactiver je comprends la logique. D'un mois à l'autre. Hein. Ce n'est pas inintéressant, tu vois.
Exactement.
Bon, bah, Loïc et Christophe, votre sentiment par rapport à ce système d'abonnement et cette tarification qui est plus dans la culture de l'iPad que du Mac ?
Non. Globalement, moi, je suis très client des modèles sur abonnement pour la simple et bonne raison que je dois m'adapter souvent à des projets qui utilisent des choses que je n'ai pas forcément au studio. S'abonner pour deux mois à une suite logicielle, c'est beaucoup plus intéressant que de faire des achats upfront. Après, je suis peut-être un peu naïf, mais je me dis qu'avec un système d'abonnement, on peut espérer plus de recherche, plus de développement. Grâce à ce modèle économique, mais bon, je suis peut-être un peu naïf. Mais je me dis que ça peut permettre d'avoir une évolution plus rapide. Tout à fait d'accord avec Didier, en revanche, même si Logic, je le trouve plus abouti que Final Cut, une version bêta aurait été bienvenue. En l'état du logiciel, tu proposes une version bêta, tu la rends payante au moment où c'est un peu mature.
Et ça aurait aussi donné à Apple une information du potentiel succès, de l'énergie à mettre pour le développement. C'est-à-dire que tu aurais pu
dire,
mais ouais, ça aurait pu dire, au purée, ouais, les gens sont assez critiques, finalement ils utilisent.
Cette émission leur a donné quelques pistes quand même.
Une base d'utilisateurs, parce qu'en fait là, le truc c'est qu'il faut une base d'utilisateurs. Alors que là, si personne prend l'abonnement, est-ce qu'ils vont le faire évoluer ? Est-ce qu'on aura les fonctions qu'on veut ?
Je serais intéressé d'avoir la réaction de Christophe sur le système d'abonnement.
Ouais, ben, moi, je suis assez pour tout ce qui est business model récurrent. Donc, vraiment, c'est le fait qu'une entreprise qui développe quelque chose, un service, du logiciel, peu importe, reçoive régulièrement en fait, de l'argent. Parce que, quelque part, ça veut dire aussi que si tes utilisateurs ne sont pas contents, ben, ils auront peut-être payé 10 euros pour deux mois, mais après, ils vont se désabonner à ton service. Et du coup, ça met un peu de pression auprès de Apple. Effectivement, par rapport à ce que disait Loïc, je vois une relation directe entre ce type de modèle de paiement en paiement mensuel et le fait que ça requiert une mise à jour constante du logiciel parce que c'est ce qu'attendent les utilisateurs qui payent au mois. Donc je suis assez preneur de ce genre de choses. Par contre, effectivement, est-ce qu'ils vont trouver un public et est-ce que ça ne va pas juste être un essai et puis finalement le logiciel sera mis à main gratuitement dans les mains des gens parce que pas suffisamment d'utilisateurs ou bien qu'ils arrêtent le logiciel, ça c'est autre chose.
Alors parlons justement de la cible hein, en conclusion de cette émission. Quelle cible pour l'iPad Pro doté de ces logiciels ? Loïc, Didier, Laurent, Christophe, êtes-vous prêts à abandonner votre Mac pour un iPad ? On en parle après ce jingle. Alors, quelle cible êtes-vous prêt à. Quelle cible ? Est-ce que vous êtes prêt à switcher ? J'ai un petit peu un début de réponse. On va commencer avec Loïc.
Alors déjà, moi, en tant que cible, il y a un truc qui m'a vachement étonné, dont je n'ai pas entendu parler, c'est que tu as une sortie concomitante de Final Cut et de Logic. Tu te dis, superbe, je vais faire de la musique à l'image, c'est mon métier. Tu ne peux pas importer de film dans Logic. Si tu as un projet en baston, il ne s'ouvre pas sous Logic. C'est dans les contraintes.
Explique le baston.
Si tu as un projet qui est basé sur des minutes, des secondes ou un timecode, comme tu peux utiliser sur un film, ce projet n'est pas accepté par Logic.
Ce qui est très répandu.
Je ne m'y attendais pas. Le premier projet que j'ai essayé d'ouvrir sur Logic en important de mon Mac, c'était forcément un projet à l'image. Donc, sur une base temps, comme je viens d'expliquer, ça ne s'ouvre pas. Je suis allé voir chez Apple, effectivement, c'est dans les choses qui ne s'ouvrent pas. Après, la cible évidente, c'est les utilisateurs de GarageBand qui veulent aller vers quelque chose d'un peu plus riche et plus compatible avec d'autres studios. Et justement, il y a les leçons interactives intégrées, super bien faites dans Logic. Je ne sais pas si elles sont sur Final Cut. Mais ce sont des leçons interactives qui te permettent de visualiser vraiment ce qu'il faut faire avec des petits schémas, des fenêtres qui basculent, qui te montrent. Tu as une leçon qui s'appelle Logic Pro pour les utilisateurs de GarageBand, ça veut tout dire. Tu as un kit de sons qui s'appelle GarageBand Sounds Compatibility Pack qui te permet de ramener tous les sons de GarageBand pour ouvrir tes projets. C'est vachement bien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ces leçons interactives, si on pouvait avoir un kit de développement pour ça, ça serait génial parce que moi, livrer un projet avec quelque chose qui explique exactement ce que j'ai voulu faire, comment ça fonctionne, ou pour des éducateurs et des étudiants, avoir le vrai plus pour moi, c'est ces leçons interactives, là. Qu'on puisse avoir la main là-dessus, ça serait génial.
Alors, tu me disais en préparant cette émission que pour finir,
on ne peut pas prendre de notes.
Oui, vas-y, continue.
D'autant plus qu'on ne peut pas prendre de notes maintenant sur Logic, contrairement à la version Mac, où tu as un système où tu peux prendre des notes sur ton projet, ça n'existe pas dans la version iPad.
Alors, concrètement,
nous tirons partie de ces leçons.
Concrètement, les cibles que tu considères en préparant cette mission, tu me disais plutôt les musiciens solo, c'est ça ?
Oui.
Les producteurs, qu'est-ce que c'est pour toi un producteur aujourd'hui ?
Quand on parlait de producteur ou de beatmaker, c'est les gens qui vont créer, par exemple, des instrus pour des gens qui vont rapper par-dessus ensuite. Ce sont des choses que tu composes essentiellement avec du sample, des instruments synthétiques, des choses qui existent déjà dans Logic et qui existent aussi dans Logic iPad, donc tu as tous les instruments sous la main pour créer ce type de musique. Donc c'est quand même une cible assez large. Et encore une fois, le positionnement, je ne trouve pas déconnant parce que ça marche sur des puces quand même assez anciennes. Tu peux trouver un iPad facilement, même un iPad 9 de génération 10 à 589€, il te fait tourner Logic parfaitement. Voilà, pour moi, le positionnement de Logic, il est plus simple à appréhender quand même.
Donc plutôt des musiciens solo, plutôt et dès qu'il s'agit de d'enregistrer plusieurs musiciens, ça se complique un peu. Là, il faut avoir des solutions un peu plus élaborées.
Ça se complique parce que tu as besoin de matériel tiers. Après, j'ai des gens qui m'ont dit « Oui, mais nous, on l'utilise déjà. » Alors, tu as toute cette utilisation très, très spontanée du tactile pour des plus jeunes générations qui font qu'ils n'ont aucun problème à utiliser ça comme matériel central d'un enregistrement. Voilà, c'est vraiment les usages et les habitudes qui font qu'on va utiliser ou pas l'iPad, mais l'enregistrement d'instrumentiste, ça nécessite de toute façon des entrées audio qui ne sont pas sur l'iPad, écoutes qui ne sont pas sur l'iPad, le musicien a besoin de s'entendre, la personne qui l'enregistre a besoin de s'entendre aussi. Donc forcément, tu as l'iPad au milieu de quelque chose de beaucoup plus vaste.
Donc on rentre dans une autre division. Concernant Final Cut Pro, Didier, Christophe ou Laurent, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'à la conclusion de cette émission, que l'outil ne s'adresse pas aux utilisateurs historiques finalement de Final Cut Pro, à part si on veut travailler on the go, comme le disait Christophe, mais plutôt de nouvelles générations qui sont aujourd'hui sur iMovie ou qui bricolent avec leur iPhone et qui veuillent, en mobilité ou pour les réseaux sociaux, pour les vlogueurs, comme on dit aujourd'hui, travailler avec un outil plus puissant et plus accessible qu'un Mac, et ce serait l'iPad. Didier.
On aurait Final Cut qui tournerait en version même un peu dégradée sur des iPads, comme le disait Loïc, des iPads de il y a 3, 4 ans, 5 ans. Je te dirais oui. Là, vu les prérequis qu'il faut, autant t'acheter un Mac si tu veux te faire de la vidéo. Et d'ailleurs, moi, les pros avec qui je discutais, ils me disent, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de l'iPad ? C'est-à-dire que si je prends un iPad avec 2-3 accessoires, autant prendre le Mac. Il n'y a pas un intérêt en mobilité.
À part le tactile, parce qu'on n'aime pas travailler avec un ordinateur. C'est aussi générationnel, Didier.
Alors, ça c'est sûr, mais du coup, si tu veux capter ce nouveau public, il faut quand même lui donner une forme d'accessibilité et pas lui dire il te faut le truc à 3000 balles, plus ouais, les accessoires, plus tes SSD, tes machins. Et donc, en fait, pour moi, la cible, elle est complètement ratée sous Final Cut parce que je n'arrive pas à cibler effectivement la personne idéale. Et même ceux qui font, tu vois, on pourrait dire, ouais, il y en a qui sont nés avec l'iPhone, ils font du TikTok et tout. Même cette génération-là, elle est déjà avec CapCut et tout sur des outils qui sont beaucoup plus optimisés pour ce qu'ils font. Donc ça apporte pas un supplément. Le seul truc, ça pourrait être voilà, un étudiant qui a pris un iPad Pro parce qu'il préférait ça pour différentes raisons pour faire ses études et de se dire, tiens, on lui fournit quand même des outils professionnels, il a besoin d'acheter un Mac, s'il a une grosse config et tout, ça lui donne quand même plus de sous. Comme l'arrivée de Photoshop, l'arrivée de tous ces gros programmes. Donc, dans cette logique-là, oui. Mais par contre, cette base d'utilisateurs va être beaucoup plus longue à grossir, alors qu'ils avaient un vrai public de Final Cut qu'ils auraient pu récupérer avec des fonctions intéressantes, avec du cloud, avec tout un tas de trucs, comme a fait Adobe en disant, tiens, tu peux aller modifier tes trucs, tu reviens sur ton Mac et t'as tout qui se remet en place. Et du coup, pour moi, la cible est vraiment ratée. Alors, soyons positifs et laissons Apple le temps de développer son logiciel. Mais c'est vrai qu'en l'état, là, qui va dépenser ces 5€ par mois, je ne saurais vraiment pas te le dire aujourd'hui. Tu vois.
Allez, il y a une réaction de Christophe et ensuite Laurent.
Oui, moi je pense que peut-être effectivement les pros qui vont l'utiliser, comme on le disait, en étape un peu tampon entre le moment où ils vont capturer des rushs et puis le moment où ils vont se retrouver sur un bureau avec un Mac et plusieurs écrans, etc. etc. Et donc vraiment faire du montage très, très rapide. Peut-être aussi certaines personnes qui sont dans un milieu créatif, je ne sais pas encore bien qui utilisent des méthodologies collaboratives de création. Et dans ce cas-là, avoir que ce soit un Logic ou un Final Cut Pro, de se poser dans le canapé avec des potes et pouvoir se dire, tiens, on travaille pour Logic sur une petite mélodie, un truc un peu sympa. On pose quelques samples pour voir un peu ce que ça peut donner, mais sans plus. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on va récupérer ça sur un Mac ou bien sur Final Cut, de se dire aussi, regarde, on a fait ça, on va monter vite fait quelques petits trucs et éventuellement les poster rapidement sur les réseaux sociaux, ou bien alors, parce que c'est un projet un peu plus sérieux, l'utiliser sur du macOS, quoi.
Laurent, pour conclure.
Deux choses. La première, c'est que ça aurait pu être une formidable opportunité pour Apple de sortir une offre de service pro. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une offre de service où ils fournissaient juste du stockage de fichiers avec
un iCloud.
iCloud, ouais. Ils ont sorti un iCloud service qu'ils appellent One, de mémoire.
Qui groupe plein de services.
Plein de services, c'est-à-dire que aux États-Unis, tu as News, tu as Fitness, tu as tout ça. Et on aurait très bien pu imaginer.
Apple TV Plus,
tout ça. Et on aurait très bien pu imaginer, peut-être, tu vois, c'est une trentaine de dollars, une trentaine d'euros.
Même dans l'abonnement de.
Oui, on aurait pu imaginer que pour quelques euros de plus, tu aies eu plus d'espace et.
Peut-être arrivé. Hein.
Oui, et plus d'espace et ces services, et qu'ils soient un truc intégré. Donc, ça veut dire, ça sera un usage potentiellement, le développement des services pro. Le deuxième pas, et c'est
Laurent,
là où je pense.
Me permettre juste, c'est pas pour un jeu de mots cette fois-ci, c'est pour la réalité. Il y a quelques années, je peux vous confirmer, j'ai été au courant en interne chez Apple, en fait, qu'ils étaient en train de bosser sur un iCloud Pro. Et ça n'est jamais sorti, en fait. Et les personnes que je connaissais étaient en train de se préparer, en fait, au discours marketing de service. Donc, ça a existé. Ils ont travaillé dessus, mais ils ne l'ont jamais sorti.
Ouais. Bon. Le deuxième cas d'usage que je vois, c'est un cas qu'on prend... on est biaisé, nous. Et pas dans... Christophe, n'inverse pas les lettres, s'il te plaît. Mais,
je le retiens, je le baïonne.
Donc, non, on est biaisé parce qu'on a un usage qui vient de Final Cut Pro ordi. Je me dis, imaginons aujourd'hui que tu pars d'une feuille, une sorte de feuille vierge, et que tu découvres le montage avec l'iPad. Tu peux peut-être te dire que finalement, c'est une façon de le faire et de t'habituer à le faire de cette manière-là, en oubliant carrément le fait qu'il faille le sortir à un moment donné sur autre chose et de produire des mini-vidéos.
À l'inverse, tu peux prendre le truc à l'envers. La question, le titre de l'émission est un peu putaclic, je vais bien la reconnaître, qui dit que est-ce que l'iPad va tuer le Mac maintenant que le bastion vidéo et musique est... n'est plus réservé donc au Mac. Donc on peut prendre le problème à l'envers en disant il y a tellement de trous dans la raquette, notamment sur Final Cut, que là c'est le meilleur argument pour acheter un Mac de regarder la version de Final Cut sur iPad. Allez, place à la question de la semaine. Laurent, la question de la semaine, on va répondre à la question de la semaine dernière. Tu as sélectionné une question, tu te rappelles ?
Alors la semaine dernière, la question c'était avec le succès des MacBook Pro et l'émergence du télétravail. Envisageriez-vous, on aurait dû dire, qu'envisagez-vous encore d'investir dans un iMac, puisque c'était l'émission sur les 25 ans de l'iMac, et au-delà, un ordi de bureau, et pourquoi ? Nous avons eu, sincèrement, une kyrielle de réponses intéressantes. On a eu Axel Folly, Jean-François Bénat, Jimmy Dufrier, Mickey Kiyud, Bac à sable, des très bons. Et on a eu, tout ça a été saupoudré de réponses PC. C'est-à-dire qu'on a eu de très bonnes réponses d'utilisateurs, de PCistes, pas du tout Mac, qui te disent l'ordinateur de maison, j'ai toujours un PC, j'ai un peu, j'utilise mon PC de bureau avec un écran à la maison.
Gamer aussi dans le monde PC. Que
oui, mais là c'était plutôt,
qu'on connaît trop peu
c'était plutôt dans les usages. On a eu, franchement, et j'ai trouvé plein de réponses intéressantes parce que les analyses étaient un peu subtiles. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trancher. Et j'en ai pris une. J'ai choisi Stéphane Ferret parce qu'il a placé le mot kinesthésique et je trouvais qu'il fallait le placer dans un commentaire. Donc voilà, donc la réponse sélectionnée, c'est celle de Stéphane Ferret et je l'en remercie. Voilà, bravo à lui. Et on pose une nouvelle question cette semaine. Donc la question cette semaine, c'est que faudrait-il qu'iOS / iPadOS dispose pour que finalement on bascule sur cette machine, en sachant que potentiellement il y a iOS et iPadOS qui vont être annoncés dans 10 jours, qui seront la version 17. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir des choses dans la version 17 qui pourraient ? Moi j'ai une réponse, j'ai une vraie réponse là-dessus, sur les avancées qui pourraient être dévoilées, qui pourraient être quelque chose. Donc allez, faites-vous plaisir, bombardez-nous de réponses, on en sélectionnera une.
Et vous répondez exclusivement, c'est important,
dans les commentaires
de YouTube et Laurent sélectionnera une réponse et donc vous remporterez un magnifique t-shirt OLM de votre choix que vous irez choisir sur le sur la boutique d'ORLM, elle est dans la description de la vidéo, allez voir ça. Et quant aux gagnants, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@onrefaitlemac.com pour que on vous envoie le modèle de votre choix et surtout la taille. Allez, on passe au coup de cœur cette fois-ci. Les coups de cœur et d'abord honneur à Loïc, bien sûr.
Je pensais que tu lançais quelque chose là-dessus. Alors oui, je voulais vous parler du Chompy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un petit objet de création sonore qu'on voit ici.
Le voilà.
Parce que on parle du tactile là, depuis ces annonces, le tactile qui n'est pas seulement toucher une surface lisse, mais qui peut être aussi manipulé, voilà, comme on le voit ici. Pour moi, tu as une simplification vraiment de la création sonore avec cet objet qui n'est fait que pour prendre un son, le manipuler et le rejouer. C'est ultra ludique et ça a eu une explosion sur Kickstarter complètement folle, c'est-à-dire que l'objectif était atteint en quelques minutes, je crois que c'était à peine une minute ou une minute trente. Ils ont atteint le million de dollars en quelques jours.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, ça prouve vraiment ce besoin fondamental de s'amuser quand tu manipules et que tu fais de la musique, quand tu joues de la musique. On dit jouer de la musique, d'ailleurs, on joue. Et voilà, ce sont des gens super intéressants qui ont créé ça, qui ont beaucoup fait dans l'éducation, qui ont créé des écoles pour apprendre la synthèse modulaire à des jeunes. Il y a eu plein de choses comme ça super, super intéressantes dans leur parcours. Et cet aspect sain aussi qu'ils ont eu, de même en ayant gagné énormément d'argent sur ce projet, de limiter la production et de ne pas l'étendre au-delà de ce qui était prévu au départ pour vraiment se concentrer sur les premiers acheteurs et faire évoluer au contraire le projet en prenant des infos à droite à gauche de tous ceux qui ont participé au projet. Et voilà, j'ai hâte d'avoir ce nouveau jouet dans ma collection.
Merci beaucoup Loïc. Christophe, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine ?
Alors, mon coup de cœur, ce sont les pizzas aux ananas.
Non, c'est une hérésie.
Non, mais attends,
c'est pas possible.
Il y a eu le nombre de gens autour de moi qui sont prêts à lancer une fatwa contre toi.
Non, chaque fois qu'il vient au studio et qu'on va à la pizzeria, il demande une pizza à l'ananas et le cuisinier, le chef veut le pendre.
En fait, voilà quelqu'un de bien. Tu vois, Didier aussi aime beaucoup.
Non, mais attendez. Non, mais toi qui es belle, ça va. Poulicane, il a quand même des origines du Sud. C'est grave, c'est encore plus grave pour Poulicane.
Je crois qu'il faut qu'on lui parle. Il va falloir faire une formation accélérée.
Plus sérieusement, mon coup de cœur de cette semaine, c'est On refait la pop, qui est sorti mercredi, et qui parle de là ou le, on dit comme on veut, Vectrex, qui est une console Tu dis comment, toi,
la Vectrex, c'est forcément féminin, une si belle console.
Parce que c'est une console de jeu, voilà. Effectivement, et donc c'est une console des années 80, et c'est juste dingue de se dire que c'est une console incroyable, avec un écran incroyable, avec un processeur génial. et qui s'est cassé la figure. Ouais, et donc, on vous explique tout ça, tout cet historique de savoir comment un produit génial peut se casser la figure en quelques mois sur un marché. Et on vous explique tout ça dans On refait la pop.
Ouais, et surtout, ce qui est intéressant dans cette console, c'est qu'elle avait vraiment tout pour réussir. C'est une console qui inaugurait la 3D. On avait une mini borne d'arcade qui a beaucoup inspiré le design, on peut le dire, le Mac première génération. Donc il y a plein d'anecdotes intéressantes. Allez voir cette émission. Elle est sur la chaîne YouTube d'En refait le Mac. Et merci encore à Christophe de nous raconter ces belles
histoires. Ouais, et vive les pizzas aux ananas.
Oui. Didier, ton coup de cœur.
On a perdu.
En mute.
En mute, mon cher Christophe.
Didier.
Excusez-moi, Didier, j'étais en mute. Alors, moi, ce sera pas de la bouffe. Mais tu sais que ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup aux énergies, à l'autoconsommation, les panneaux solaires, les batteries, voilà, c'est les voitures électriques. Enfin, c'est un cycle un peu vertueux, tout ça, de l'énergie. Et donc, on dit beaucoup maintenant, voilà, pour faire des économies, achète des panneaux solaires, achète tout un tas de trucs. Moi, j'ai trouvé l'outil qui va te faire faire vraiment des économies sur ta facture d'électricité. C'est français. Ça s'appelle EcoJoco. Alors, tu n'as peut-être jamais entendu ce nom, mais en fait, c'est un petit outil qui se plug en fait sur, en gros, ton compteur électrique. Donc, il faut aller le mettre dans ton compteur. Moi, il était dans la rue, tu vois. Et une fois que tu as branché ça, il te dit exactement en temps réel. Donc, il y a un petit boîtier qui est très joli, très design, que tu peux mettre au milieu du salon pour montrer aux gosses combien de watts tu consommes en temps réel. Et en fait, ce truc, il est couplé à une application qui te permet aussi d'avoir le détail de tes consommations. Parce qu'en fait, il est très intelligent. Il voit, il est capable de détecter quand c'est ton frigo, quand c'est ta box internet, quand c'est ta voiture électrique qui charge. Et à la fin, il fait un petit graphe de ce que tu as consommé. Et surtout, il y a même le chauffe-eau aussi au milieu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu prends conscience déjà de la quantité d'énergie que tu consommes. Tous ceux qui disent éteignez vos chargeurs de téléphone qui ne consomment rien, alors que si tu mets, j'en sais rien, une demi-heure de four, c'est la consommation d'un iPhone pendant 5 ans. Ouais, non mais en fait, les gens ne comprennent pas les ordres de grandeur souvent de l'électricité. Un sèche-cheveux, c'est 2-3 000 watts. C'est l'équivalent de ce qu'on met dans une voiture électrique, un sèche-cheveux en termes de puissance. Ouais. Et les gens, quand tu leur dis ça, ils disent mais non, je me sèche les cheveux. Un grille-pain, c'est pareil. Et en fait, cet outil, il permet de te dire ah bah oui, mais regarde, là, j'ai allumé le grille-pain, tout à coup, j'ai multiplié par 10 la consommation de la maison.
C'est ça,
Et non, alors bien sûr que non. Non, mais par contre, ça te permet de te dire tiens, voilà, la clim que j'ai tendance à mettre trop facilement ou tout un tas d'outils, effectivement.
On prend compte des usages, des fois déviants qu'on peut avoir et qui peuvent paraître.
Exactement.
Belle idée.
Je sais plus le prix, mais je crois que c'est autour de 150 euros dans ces eaux-là.
De suite. Ça.
Mais c'est très rentable en fait. Tu le rentabilises très vite. Et surtout, je terminerai là-dessus. Tu as des maisons qui consomment, enfin toutes les maisons consomment. Tu sais, on a un talon de consommation, c'est-à-dire le frigo, tout ce qui est allumé en permanence. Et des fois, tu es surpris. Tes bornes Wi-Fi, tu te dis tiens, ça fait 100 watts mes trois bornes Wi-Fi là. Effectivement, ça vaudrait peut-être le coup de les éteindre la nuit ou la journée quand t'es pas là. Et en fait, c'est vrai que c'est sur la facture d'électricité. Tu peux vite la récupérer en fait cette somme là parce que du 100 watts sur un an ça peut faire quand même quelques dizaines d'euros, tu vois.
Et du coup, si tu mets des panneaux solaires, tu vois également ce que t'apporte la consommation.
Exactement. Ouais. Donc tu vois le truc, par exemple, moi tu vois, j'ai mis les panneaux et quand tu as les panneaux qui produisent en journée, là en ce moment il fait beau, et ben tu vois que des fois que tu es à moins 1000 watts, donc tu renvoies 1000 watts gratuitement chez EDF, voilà, qui tant mieux pour eux. Mais par contre, toi, tu consommes zéro. Et c'est assez incroyable. Et en plus, EcoJoco, tu lui mets le prix de ton kilowattheure, il te dit les économies que tu fais. Tu dis, tiens, cette semaine, tu as moins consommé, tiens, c'est bien. Et il y a un côté ludique pour les enfants, pour la famille et tout. Donc vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Et en plus, c'est français. Donc,
Cocorico. Merci beaucoup, Didier. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur.
Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, alors juste, je reviens sur ce qu'a dit Didier. Mmh. Et moi, j'ai eu un autre problème, c'est quand ils ont changé le compteur. Un jour, il y a une...
Linky.
Enedis m'a dit il faut à tout prix mettre un compteur Linky parce que votre compteur est plus aux normes. Donc ils sont venus mettre le compteur et en fait j'avais le mauvais abonnement. Et donc en fait comme on est un pays un peu improbable, la France, c'est-à-dire que au lieu de... Non mais tu veux un abonnement à 3 kW, tu payes un abonnement, tu veux un abonnement à 5 kW, tu payes plus cher et tu veux un abonnement à 9 kW, tu payes plus cher. Ce qui est quand même sensiblement débile dans la tête du mec qui a pensé l'offre parce que si tu prends un abonnement à 9 kilowatts, tu vas forcément consommer plus d'électricité. Donc pourquoi te faire payer un abonnement plus cher? Sauf qu'avec Linky, ça coupait. Donc en fait, dès que je dépassais, Linky te coupe. Ça coupe. Et donc en fait, moi j'ai appris parce que quand on
a limité la puissance.
C'est pas ça. C'est qu'en fait, quand on les a appelés, le compteur était pas encore relié. Donc il coupait, mais on pouvait pas encore faire la mise à jour dans le compteur. Donc on a passé des mois et des mois à dès que tu mettais la bouilloire le matin et le grille-pain, ça tombait. Ouais. Dès que tu mets... Donc tu vois, tu te rends compte de ce qui consomme beaucoup.
Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'effectivement, Linky, qui a été beaucoup décrié, qu'il est encore...
Pour des mauvaises raisons.
Pour de mauvaises raisons, s'il intégrait ce type de solution, ce qui serait tout à fait possible, Didier,
il intègre, mais indirectement. Mais oui, il intègre sur le long terme et pas sur l'instantané. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'EcoJoco est intéressant, parce que tu as l'instantané.
Voilà, si j'étais EDF, je rachèterais l'autoCo EcoJoco.
Une petite clé qui se branche sur le Linky, l'EcoJoco. Là, il y a une ou deux semaines, là, et parce que le Linky a cette info, mais par contre, il ne fait pas de télémétrie live. Alors qu'il a l'info en live. Mais
ouais, c'est ça qui est dommage. Mais bon, après,
c'est dommage. Mais il y a les petites clés et tout, ça se fait hyper facilement maintenant. On est très en avance, la France, par rapport à ça. Tous nos voisins, les compteurs connectés, tout ça, ils n'ont pas trop encore.
Du coup, ton coup de cœur, Laurent ?
Mon coup de cœur cette semaine, c'est Firefly. C'est l'intégration de l'IA générative dans Adobe.
Oui.
Dans la suite Adobe. Donc, c'est l'IA que moi j'aime. C'est-à-dire, c'est de l'IA intégrée. C'est-à-dire que, qui est un outil existant, et ils ont intégré ce que font les génératifs dans leur outil. Donc, ils prennent le virage. Tu vois, c'est pas que beaucoup hurlent contre Apple en disant oui, Apple, je pense à Rémi, là, hein, il se reconnaîtra, qui dit oui, Apple est à la ramasse sur les IA génératives, mais non, ce qu'on veut, c'est de l'IA qui est intégrée, qui est utile. Donc là, ce qu'ils proposent, c'est d'intégrer.
Pas tout à fait étonnant plus.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Pour l'instant, on n'a rien vu.
Oui, non, mais on n'attend pas ça chez Apple pour l'instant.
Et pourquoi ?
Non, mais ils n'ont pas d'outils. Bon, ce qui est intéressant, c'est que eux l'ont bien intégré. Après, ça marche moyen. Donc c'est un coup de cœur parce que je pense qu'ils ont pris la bonne voie et tu vois, Adobe, ils ont fait la migration vers le cloud, maintenant ils font la migration vers les IA génératives, c'est très bien qu'ils le fassent. Après, c'est saturé tout le temps, si tu fais pas de la bonne découpe du calque, ça marche pas. Quand tu vois la vidéo sur le site Adobe, c'est fantastique, hein. Il y a un cerf ou un daim dans une clairière, tu dis mets-le-moi au milieu d'une rue éclairée, le rendu il est génial. Moi je peux dire que j'ai fait des centaines d'essais, si ta découpe elle est pas parfaite, si ton truc, tu as des résultats, c'est un peu scabreux, comme tu vois, ton prompt il faut qu'il soit béton. Donc voilà. Mais je trouve que ça va dans la bonne direction et ceux qui ont un abonnement Adobe peuvent faire la demande de participer à Firefly. Ouais, moi j'ai eu quelques jours après truc. Maintenant je pense qu'ils vont l'ouvrir à tout le monde, donc ça vaut le coup de tester. Voilà.
C'est assez vertueux effectivement parce qu'on part d'une photo par exemple et on peut lui demander de rajouter des éléments qui n'existent pas, mais il réalise pas l'ensemble.
Je te donne un exemple que j'ai utilisé. J'avais une très belle photo pour mon projet, tu sais, de commande d'actes immobiliers. Hein. Si vous êtes syndic que vous m'entendez, vous pouvez toujours me contacter. Et donc en fait j'avais une photo de Paris où le ciel était gris. Et donc, en fait, j'ai pris le calque, j'ai bien découpé le ciel et je dis, mais fais-moi un ciel magnifique et le rendu vraiment génial.
Il a mis le ciel de Bastia.
Il a mis le ciel de Bastia,
ouais. Tu vois, ça me fait mal.
Le rendu, tu voulais dire ?
Le rendu.
De mon côté, ça fait quelques temps qu'on recherche une solution pour avoir une solution Internet, une connexion Internet de secours ici au studio d'Euron Felmac, les studios de production d'Electradings Production. On cherchait un modem 5G qui nous permettait automatiquement de basculer de notre fibre si un jour il y a un souci sur la fibre. Et on a reçu le dernier modèle de chez Netgear, le M6 Pro. C'est vraiment le nec plus ultra en matière de modem Wi-Fi. Hein. C'est une solution qui permet de vraiment d'aller très très vite avec de la 5G si vous avez un abonnement avec... Et chez un opérateur qui offre la dernière génération de 5G, vous pourrez monter jusqu'à 4 gigabits seconde, donc on pourra faire nos directs sans difficulté. Et puis, accessoirement, il est également Wi-Fi, donc si vous êtes en balade pour nos reportages ou pour notre émission de cet été, c'est du Wi-Fi 6E, donc c'est l'un des premiers modems mobiles Wi-Fi 6E jusqu'à 3,6 gigabits par seconde. Autre particularité de ce modem, c'est qu'il est filaire, donc vous pouvez également brancher notre régie directement dessus ou un pari d'ordinateur en 2,5 gigabits par seconde en Ethernet, et même la possibilité de brancher, ça c'est plus commun, une antenne externe pour doper la réception. Alors le prix pique un peu à 999 €. Alors on sait que les prix de démarrage sont toujours un petit peu élevés chez Netgear, mais c'est un matériel top avec son écran qui permet de tout paramétrer, et c'est vraiment la solution qu'il nous faut pour avoir un backup ici au studio d'Electradreams. Si un jour en direct, lors d'un direct, on refait le Mac, notre fibre tombe, ça basculera automatiquement sur ce petit modem 6G qui va faire super bien le boulot. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se rapproche de plus en plus de la WWDC qui s'annonce extrêmement riche. Ça annonce même historique, paraît-il. On fera le point de toutes les rumeurs la semaine prochaine. Je compte sur vous, les amis. Merci, Loïc, pour cette première participation. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.
Avec grand plaisir.
Christophe, oui. Tu nous prépares une longue liste de jeux de mots pour la semaine prochaine ?
Parfait, je m'y mets directement.
Bon, et Didier, tu nous prépares ton inventaire à l'après-vert des souhaits que tu souhaites pour cette prochaine WWDC la semaine prochaine ?
Et il y en a. Et moi, je voudrais vraiment remercier Loïc d'être venu parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir l'avis d'un super pro, voilà, de Logic. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je le remercie également pour la semaine prochaine.
Oui, merci à vous. Et ceux qui veulent nous lâcher un petit like par amour sont autorisés
oui,
à le faire.
Oui, likez. Il faut rendre fou l'algorithme de YouTube. Il y a encore de la marge. Mais likez, n'hésitez pas à liker l'émission. C'est comme ça que l'émission remonte dans les recommandations. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner tout simplement à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et à nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre utilité et à la semaine prochaine. Au revoir.